Chapitre 38. Atlantide, orbite terrienne.
Je ne comprends pas pourquoi les post-humains ont donné le nom d'Atlantide à l'endroit où nous nous rendons, déclara Harman.
Les décisions des postes m'étaient incompréhensibles dans l'immense majorité des cas, répliqua Savi depuis le poste de pilotage du rampeur.
Daiman leva les yeux de son casse-croûte, consistant en un tiers de leur toute dernière barre alimentaire.
Qu'est-ce que ce nom a d'étrange ?
Sur les cartes datant de l'ère perdue, répondit Harman, le terme océan Atlantique désigne la grande étendue d'eau à l'ouest d'ici, au-delà des mains d'Hercule. Mais nous nous trouvons dans un bassin qui était jadis la mer Méditerranée. Nous ne sommes pas dans l'Atlantique.
Ah bon ?
Fit Daiman.
Et non. Et alors ?
Harman se contenta d'un haussement d'épaule, mais Savi prit la parole.
Il est possible que les postes aient voulu faire un trait d'humour. Mais je crois me rappeler que Platon, un écrivain antérieur à l'ère perdue, évoque une cité ou un royaume du nom d'Atlantide qui se serait trouvé dans cette région, à l'époque où c'était une mer.
Platon, répéta Harman.
Au cours de mes lectures, je suis tombé sur un nom qui ressemble à celui-ci, illustré par un dessin des plus étranges. Ça avait un rapport avec un chien.
Savi hocha la tête.
Nombre des icônes de l'ère perdue ont perdu toute signification à nos yeux.
Qu'est-ce qu'un chien ? Demanda Daiman.
Il but une gorgée d'eau à même le goulot. Sa portion de barre alimentaire n'avait pas suffi à le rassasier, mais il n'y avait plus rien d'autre à manger dans le rampeur.
Un petit mammifère jadis commun, qui servait d'animal de compagnie, expliqua Savi. J'ignore pourquoi les postes ne l'ont pas sauvé de l'extinction. Peut-être que le virus Rubicon frappait aussi les chiens.
Ça ressemblait aux chevaux ? Interrogea Daiman.
Jusqu'à une date récente, il avait cru que les gigantesques animaux qu'on voyait dans le Turin étaient des créatures imaginaires.
Les chiens étaient plus petits et plus velus, dit Savi. Mais leur espèce est tout aussi éteinte.
Pourquoi les postes ont-ils ressuscité les dinosaures plutôt que ces chiens et ces fabuleux chevaux ?
Demanda Daiman avec un frisson non dissimulé.
Comme je viens de le dire, les actions des postes étaient en majorité incompréhensibles.
Il s'était réveillé de bon matin et avait passé la journée à rouler en direction du nord-nord-ouest, traversant des champs où l'on cultivait toutes les céréales connues de Daiman, plus d'autres qu'il n'avait jamais vues avant ce jour. Ils avaient franchi à deux reprises des rivières peu profondes, plus un canal en permabéton heureusement asséché, autant d'obstacles que le rampeur avait négocié sans peine grâce à ses grandes roues et à ses essieux articulés. Il y avait des serviteurs dans ces champs, et ce spectacle familier rassura Daiman jusqu'à ce qu'il prenne conscience de la taille de certains d'entre eux. Ils faisaient jusqu'à 5 mètres de haut et 2,50 mètres de large, soit beaucoup plus que les machines auxquelles il était habitué. Et récoltes et serviteurs ne firent que devenir de plus en plus bizarres à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le bassin. Le rampeur avançait péniblement entre deux murailles de végétaux, que Savi appelait des cannes à sucre, sur une route si étroite que ses roues écrasaient les cannes en question sur leur passage, lorsque Harman aperçut les humanoïdes grivaires qui semblaient suivre leur progression. Ils se déplaçaient avec une telle vivacité, une telle fluidité, qu'ils ne faisaient même pas frémir les tiges, pareils à des spectres cadavériques courant en leur sein.
« Des Calibani, » dit Savi. Je ne pense pas qu'ils nous attaqueront.
Je croyais que tu t'en étais assuré, dit Daiman. Tu sais, avec cet ADN contenu dans les mèches de cheveux que tu nous as volé.
Savi eut un sourire. Un contrat passé avec Ariel n'est jamais garanti. Mais si les Calibani avaient voulu nous stopper, je pense qu'ils l'auraient fait la nuit dernière.
Le champ de force de l'habitacle va les arrêter, n'est-ce pas ?
Demanda Daiman. La vieille femme haussa les épaules.
Les Calibani sont plus malins que les Voynix. Peut-être nous réservent-ils une surprise.
Daiman frissonna et guetta les pâles silhouettes rôdant autour d'eux, ne réussissant qu'à les entrevoir. Le rampeur quitta les cannes à sucre pour gravir une petite colline. La route courait ensuite entre des champs de blé d'hiver dont les tiges mesuraient à peine 50 cm et que caressait une brise soufflant de l'ouest. Les Calibani, une bonne douzaine de chaque côté, émergèrent des cannes à sucre pour fouler le blé derrière le rampeur, maintenant avec lui une distance de 50 à 60 mètres. Une fois à l'air libre,
ils se mirent à courir à quatre pattes.
« Je n'aime vraiment pas leur allure, » commenta Daïman.
« Tu aimerais encore moins celle de Caliban, » lança Savi.
« Je croyais que c'était des Calibani. »
Décidément, il était impossible de comprendre cette vieille folle, songea Daïman.
Savi sourit, négociant sans problème le franchissement d'une série de six conduits ou canalisations courant d'est en ouest.
On raconte que les Calibani ont été obtenus par clonage de Caliban, qui forme la trinité de Gaïa avec Ariel et Prospero.
On raconte que, railla Daïman. Tu ne sais que répéter des ragots. N'as-tu aucune connaissance de première main? Ces vieilles histoires sont grotesques.
C'est le cas de certaines d'entre elles, concéda Savi.
Et bien que j'ai déjà vécu 1500 ans ou plus,
cela ne signifie pas que j'ai été présente durant tout ce temps. Par conséquent, je suis bien obligé de répéter certaines rumeurs.
Que veux-tu dire, tu n'as pas été présente durant tout ce temps? Demanda Arman avec un intérêt évident.
Savi se mit à rire, mais Daïman se dit qu'elle ne semblait pas amusée pour autant.
Je suis bien mieux nano-renforcée que vous autres, Héloïse, dit-elle. Mais personne ne vit éternellement. Ni même 1400 ans, ni même 1000.
Je passe le plus clair de mon temps comme Dracula, endormi dans les cryocrèches longue durée du Golden Gate ou d'ailleurs. J'en sors de temps à autre pour voir ce qui a pu se passer, pour tenter de libérer mes amis du rayon bleu. Puis je replonge dans la glace.
Arman se pencha en avant.
Combien de temps es-tu resté en éveil?
Moins de 300 ans en tout. Et ça suffit amplement à fatiguer le corps. Et l'esprit. Et l'âme.
Qui est Dracula? Demanda Daïman.
Savi ne répondit pas et continua de rouler vers le nord-nord-ouest. Elle leur avait dit que leur destination se situait à 450 km de leur point d'accès au bassin, sur la côte d'une terre jadis nommée Israël, un mot que Daïman n'avait jamais entendu avant ce jour. Cela dit, l'expression 450 km ne signifiait pas grand-chose pour Arman et rien du tout pour Daïman, car il était rare qu'un trajet en cabriolet ou en droski tracté par Voynix soit supérieur à 2 ou 3 km. Quand il fallait aller plus loin, Daïman ne connaissait que le fax. Ainsi que tous ses semblables d'ailleurs. Néanmoins, ils avaient franchi la moitié de cette distance vers midi, et c'est à ce moment-là que la route d'argile rouge arriva à son terme, que le terrain devint nettement plus accidenté, et que le rampeur dut ralentir sensiblement, faisant parfois des détours de plusieurs kilomètres avant de retrouver son cap initial. Savi maintenait celui-ci au moyen d'un petit instrument pêché dans son sac à dos, et d'une carte dessinée à la main et maintes fois pliée et repliée.
Pourquoi n'utilises-tu pas une fonction de localisation, s'enquit Daïman.
Le Farnet et l'Olnet sont opérationnels dans le bassin, mais pas le Proxnet, et notre destination n'est répertoriée dans aucune base de données. Je me sers d'une carte et de cet antique instrument baptisé boussole. Et ça marche.
Et comment ça marche? Demanda Arman.
Par magie.
Cette réponse contenta Daïman. Ils descendaient régulièrement au sein d'une topographie de plus en plus chaotique, le parcellaire cultivé ayant laissé la place à des alignements de rochers, des ravines et, de temps à autre, des bosquets de bambous ou de hautes fougères. Les Calibani avaient disparu, mais peut-être étaient-ils tout simplement dissimulés par les rideaux de pluie qui tombaient depuis qu'ils avaient atteint cette zone désolée. Le rampeur passa devant d'étranges artefacts, de nombreuses carcasses de bateaux en bois et en métal, une cité de colonnes ioniennes mises à bas, d'antiques objets en plastique luisant au sein des sédiments gris, les eaux délavées de multiples créatures marines, et plusieurs conteneurs rouillés de belle taille que Savi appela des sous-marins. La pluie se fit plus douce durant l'après-midi, et ils virent apparaître au nord-ouest une sorte de mesa. Elle ressemblait davantage à une montagne, en fait, avec des sommets vallonnés plutôt qu'escarpés, larges et verdoyantes, bordées de falaises vertigineuses.
« C'est là que nous allons ?» demanda Daïman.
« Non, » répondit Savi. « Ceci est Chypre. J'y ai perdu ma virginité il y aura 1422 ans mardi prochain. »
Daïman et Arman échangèrent un regard en douce. Tous deux eurent la sagesse de ne faire aucun commentaire. En fin d'après-midi, Ils arborèrent une zone marécageuse, à l'issue de laquelle la route d'argile rouge refit son apparition, bordée de champs cultivés. Dans ceux-ci s'affairaient des serviteurs aux formes étranges, mais aucun ne leva la tête sur le passage du rampeur. La plupart d'entre eux semblaient dépourvus d'yeux. À un moment donné, la route disparut sous une rivière large de 200 mètres. Savy scella la porte coulissante, les privant d'air frais, s'assura que le champ de force était activé et fonça depuis la berge. La rivière était relativement profonde, 12 mètres ou plus au centre de son lit, et les phares du rampeur avaient peine à éclairer ses eaux boueuses. Daemon fut surpris de la force du courant, étant donné la largeur et la profondeur du lit, et le véhicule subissait de telles embardées que Savy dut batailler ferme pour garder le cap. Une machine pourvue de roues plus petites, d'essieux moins flexibles ou d'un moteur moins puissant aurait sûrement été emportée vers l'aval, songea Daemon. Lorsqu'ils émergèrent sur la rive nord et que le véhicule se débarrassa de l'eau et de la boue dont il était recouvert, Armand déclara
« Je ne savais pas que le rampeur pouvait aller sous l'eau. »
« Moi non plus, » rétorqua Savy.
Elle s'orienta, puis fonça vers le nord-nord-ouest. Les ergostructures apparurent peu après, et Armand fut le premier à les remarquer. La toute première ondoyait et frémissait sur leur gauche, à 30 mètres de la chaussée argileuse, dans un espace dégagé derrière un bosquet de bambous. Savy fit halte pour qu'ils aillent la voir de plus près, bien que Daemon ait hésité à descendre en dépit de l'absence prolongée des Calibani. Mais Armand tenait à examiner cet artefact, et comme Daemon ne souhaitait pas rester tout seul à bord du rampeur, il suivit ses deux compagnons au dehors et jusqu'au pied de l'objet étincelant. Il était assis depuis si longtemps que cela lui fit tout drôle de marcher à nouveau. L'ergostructure était relativement petite, 6 mètres de long sur un peu moins de 3 mètres de haut, un ovoïde grossier de couleur jaune et orange, parcouru de veines vertes palpitantes, pourvu de pseudopodes poussant en son sommet et à ses extrémités, qui s'agglutinaient pour former des excroissances avant d'être absorbées par la masse principale. La chose flottait à un peu plus d'un mètre au-dessus du sol, et Daemon refusa de s'en approcher à moins de 20 pas. Savy et Armand se montrant moins timorés.
Qu'est-ce que c'est ? Demanda Armand, dont la tête et les épaules semblèrent disparaître un instant derrière la masse mouvante.
Nous sommes dans la banlieue de l'Atlantide, même si 100 kilomètres nous en séparent encore, répondit Savy. Les postes construisaient leur station terrestre avec ce matériau.
Quel matériau ?
Armand tendit la main vers l'ovoïde.
Je peux toucher ?
Certaines de ces formes sont électriquement chargées, d'autres non. Mais ce n'est jamais mortel. Vas-y. Au pire, tu risques d'être un peu secoué.
Armand approcha ses doigts de la surface incurvée. Sa main disparut dedans. Lorsqu'il s'empressa de la retirer, des gouttelettes jaunes et oranges coulèrent de ses doigts pour regagner leur source.
C'est froid, dit-il. Très froid.
Il agita les doigts et grimaça.
Il s'agit essentiellement d'une seule et gigantesque molécule, dit Savy. Mais j'ignore comment une telle chose est possible.
Qu'est-ce qu'une molécule ?
Lança Daemon. Il avait reculé de quelques pas quand la main d'Arman avait disparu, de sorte qu'il dut élever la voix pour être entendu. Il ne cessait de jeter des regards apeurés par-dessus son épaule. Savy avait passé son pistolet à sa ceinture, mais la forêt de bambou était trop proche au goût de Daemon. Le soir allait bientôt tomber.
Les molécules sont les éléments minuscules qui composent toute chose, expliqua Savy. On a besoin d'une loupe spéciale pour les voir.
Pourtant, je vois celle-ci sans difficulté, rétorqua Daemon.
Parfois, songea-t-il, on avait l'impression de parler à un enfant quand on s'adressait à Savy, quoique lui-même n'ait jamais fréquenté d'enfants en bas âge. Tous trois regagnèrent leur rampeur. La riche lumière du couchant, en se dispersant à travers le verre de l'habitacle comme à travers un prisme, faisait luire les essieux articulés. Loin à l'est, dans la direction de cette montagne qu'était Chypre, les stratocumulus se paraient d'or.
« L'Atlantide est en grande partie composée de cette énergie macromoléculaire en suspension, » dit la vieille femme. « Un résultat des bidouillages quantiques qui obsédaient les postes. Il y a de la véritable matière dans le mélange, ce que les scientifiques de l'ère perdue appelaient de la matière exotique. mais j'ignore dans quelle proportion, tout comme j'ignore comment ça fonctionne. Je sais seulement que c'est à cause de ça que leur ville, leur station, ne cesse d'entrer et de sortir de notre réalité quantique.
« Je ne comprends pas, » dit Harman, ce qui dispensa Daemon d'ouvrir la bouche.
« Tu ne tarderas pas à le voir par toi-même. Nous devrions apercevoir la cité quand nous roulerons en haut de cette crête sur l'horizon. Et nous serons arrivés à destination à la tombée de la nuit. »
Ils reprirent place à bord du rampeur. Avant que Savi fasse démarrer le moteur, Harman lui lança
« Tu es déjà venu ici. »
Ce n'était pas une question.
« Oui. »
Tu nous as dit que tu n'étais jamais monté dans les anneaux orbitaux. C'est pour tenter d'y parvenir que tu t'es aventuré ici ?»«
Oui, » fit Savi. « Je pense que c'est là-haut que je trouverai un moyen de libérer mes amis du rayon neutrinique. »
D'un vif mouvement de la tête, elle désigna les anneaux E et P qui étincelaient dans le ciel crépusculaire.
« Mais tu n'as pas réussi à gagner les anneaux, » dit Harman. « Pour quelle raison ?»
Savi pivota sur son siège pour lui faire face.
« Je te dirai comment et pourquoi j'ai échoué si tu me dis franchement pour quelle raison tu veux aller là-haut. Pourquoi tu as passé des années à chercher un moyen de monter dans les anneaux ?»
Harman la regarda sans broncher pendant une minute, puis détourna les yeux.
« Simple curiosité, » dit-il.
« Ce n'est pas vrai. »
Savi continua d'attendre. Harman la regarda à nouveau, et Daemon se rendit compte que jamais il n'avait vu son aîné manifester autant d'émotions.
« Tu as raison, » dit sèchement Harman. « Ce n'est pas seulement une question de curiosité. Je veux trouver la firmerie. »
« De façon à vivre plus longtemps, »
souffla Savi.
Harman serra les poings.
« Oui, de façon à vivre plus longtemps. De façon à exister après ce putain de dernier vin. Parce que je suis assoiffé de vivre. Parce que je veux qu'Ada porte mon enfant. Parce que je veux pouvoir le voir grandir, même si un père n'est pas censé faire une chose pareille. Parce que je suis un salopard plein d'appétit de vivre. Satisfaite ?»«
Oui, »
fit Savi. Et elle se tourna vers Daemon.
Et toi, Daemon Ur, pour quelle raison as-tu fait le voyage ?
Daemon haussa les épaules.
Je suis prêt à rentrer chez moi dès qu'on tombera sur un portail fax.
Il n'y en a pas dans les parages. Désolé.
Il décida de ne pas relever ce sarcasme.
Pourquoi nous as-tu emmené avec toi, vieille femme ?
Lança-t-il.
Tu connaissais la route. Tu savais où dénicher ce rampeur. Pourquoi t'encombrer de nous ?
Bonne question. La dernière fois que j'ai visité l'Atlantide, je suis venu à pied depuis le nord. C'était il y a 150 ans et j'étais accompagné de deux Eloïs. Pardon, ce terme est insultant. J'étais accompagné de deux jeunes femmes. Elles étaient motivées par la curiosité.
« Que s'est-il passé ?» interrogea Harman.
« Elles sont mortes. »«
Comment ?»
demanda Daemon.
« Les Kalibani ?»«
Non. Les Kalibani ont tué et dévoré l'homme et la femme qui m'avaient accompagné la fois précédente, il y a presque 300 ans. À cette époque, je ne savais pas encore comment entrer en contact avec la biosphère Ariel, et je n'avais pas encore pensé à l'ADN.
« Pourquoi êtes-vous toujours trois pour venir ici ?»
s'enquit Harman. Daemon jugea cette question fort étrange. Il aurait préféré avoir des détails supplémentaires sur les défunts compagnons de voyage de sa vie. Étaient-ils définitivement morts, ou bien les avait-on réparés à la firmerie?
Sa vie s'esclaffa.
« Tu poses de très bonnes questions, Harman Ur.
Tu le sauras bientôt. Tu verras pourquoi j'ai toujours été accompagné de deux personnes quand je suis venu en Atlantide, sauf la première fois il y a plus d'un millénaire. » Et il n'y a pas eu que l'Atlantide. Il existe d'autres stations. L'Himalaya, l'île de Pâques, et même le pôle Sud. Des destinations sympas vu que le Sony ne pouvait pas s'en approcher à moins de 500 kilomètres.
Daemon ne parvenait plus à suivre. Il aurait voulu en savoir davantage sur ces histoires de meurtre et de cannibalisme.
Mais tu n'as jamais trouvé un vaisseau spatial, une navette pour te conduire là-haut ? Demanda Harman, après toutes ces tentatives.
Il n'y a pas de vaisseau spatial,
lâcha sa vie. Elle activa les contrôles virtuels, fit démarrer le rampeur et remit le cap au nord-nord-ouest alors que le soleil bariolait de rouge le ciel à l'occident. La cité des post-humains s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres sur les fonds marins désormais à ciel ouvert et ses étincelantes ergostructures atteignaient jusqu'à 300 mètres de haut. Le rampeur longea des obélisques d'énergie, des sphères flottantes, des escaliers rougeoyants qui ne débouchaient nulle part, des pyramides bleues qui se repliaient sur elles-mêmes, un gigantesque tore vert se mouvant le long de tiges jaunes palpitantes et d'innombrables cubes et cônes multicolores. Lorsque sa vie fit halte et ouvrit la porte coulissante, Harman lui-même sembla hésiter à descendre. Sa vie s'était assurée que tous trois portaient leur thermopot, et elle attrapa trois masques osmotiques dans un compartiment du rampeur. Il faisait presque nuit, et les étoiles avaient rejoint les anneaux dans le ciel purpurin qui virait au noir. L'éclat de la cité d'énergie illuminait le paysage à près de 10 kilomètres à la ronde. Sa vie les précéda sur un escalier rouge, les marches macromoléculaires supportaient leur poids, mais Daiman avait l'impression de fouler une gigantesque éponge. 30 mètres au-dessus du sol, l'escalier s'achevait par une plateforme carrée, faite d'un métal d'un noir terne qui ne renvoyait aucune lumière. En son centre étaient placés trois fauteuils en bois de style antique, avec un haut dossier et un coussin rouge sur le siège. Distants de 3 mètres l'un de l'autre et tournés vers l'extérieur, ils formaient un triangle équilatéral dont le centre était un trou creusé dans la plateforme.
« Asseyez-vous, » dit Savi.
« C'est une blague ?» dit Daiman.
Savi secoua la tête et prit place face à l'ouest. Harman s'assit à son tour. Daiman fit le tour de la plateforme noire, revint devant le fauteuil encore vide.
« Que se passe-t-il ensuite ? » lança-t-il. « On attend quelque chose ?»
Il considéra la gigantesque tour jaune qui poussait à quelques centaines de mètres de là et dont les remous internes évoquaient ceux d'un nuage d'orage.
« Assieds-toi et tu verras, » dit Savi.
Daiman s'exécuta à contre-cœur. Le dossier et les accoudoirs de son siège étaient délicatement ouvragés. Sur l'accoudoir gauche se trouvait un disque blanc, sur le droit un disque rouge. Il se garda bien de les toucher.
« Quand j'aurai compté jusqu'à 3, appuyez sur le bouton blanc. » Celui de gauche, Daiman, au cas où tu serais incapable de distinguer les couleurs.
« Je sais reconnaître les couleurs, nom de Dieu !»«
Très bien, » fit la vieille femme. « 1, 2... »«
Attends, attends !» s'écria Daiman. « Que va-t-il m'arriver si j'appuie sur le bouton blanc ?»«
Absolument rien. Mais nous devons appuyer dessus tous les trois en même temps. Je l'ai appris à mes dépens quand je suis venue ici toute seule. Prêt ? 1, 2, 3.
Tous pressèrent le bouton blanc. Daiman quitta son siège d'un bond, alla au bord de la plateforme noire, puis parcourut les 30 pas le séparant de l'escalier rouge avant de s'arrêter pour regarder derrière lui. La décharge d'énergie résonnait encore dans son crâne.
« Bordel !»
s'exclama-t-il, mais les deux autres, toujours assis, ne pouvaient pas l'entendre.
« On aurait dit un éclair, se dit-il, une colonne d'énergie incandescente d'environ 1 mètre de large, jaillissant du trou noir placé entre les fauteuils pour monter à l'assaut du ciel noir. Elle montait, montait, puis s'incurvait vers l'ouest telle une aveuglante parabole, donnant l'impression de disparaître mais continuant de transmettre son énergie à... »
Daiman fut parcouru d'un frisson de terreur qui faillit lui vider les entrailles.
Cet éclair connectait la plateforme à l'anneau E qui tournait majestueusement à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude.
À l'une des étoiles mouvantes qui, au sein de cet anneau, parcourait le ciel d'ouest en est.
« Reviens !»
lança Savi, criant pour couvrir le crépitement, le rugissement de l'éclair. Daiman mit plusieurs minutes à obéir, à regagner le fauteuil de bois vide, une main levée pour se protéger les yeux, projetant sur l'escalier rouge une ombre longue de 15 mètres qui se fondait dans celle du siège. Par la suite,
il serait toujours incapable d'expliquer pourquoi et comment il était revenu s'asseoir, pourquoi et comment il avait ensuite fait ce qu'il avait fait.
« Quand j'aurai compté jusqu'à trois, appuyez sur le bouton rouge !» ordonna Savy.
Ses cheveux gris se dressaient sur sa tête, ondoyaient-elles des serpents pris de démence. Elle dut hurler pour se faire entendre.
« Un ! Deux ! » !»«
Il n'est pas question que je fasse ça !» se répétait Daeman. « Absolument pas !»«
Trois !»
hurla Savy. Elle pressa son bouton rouge. Arman pressa son bouton rouge.
« Non !»
pensa Daeman, mais il pressa son bouton rouge de toutes ses forces. Les trois fauteuils en bois s'envolèrent dans le ciel, tournant autour de la crépitante colonne de foudre avec une célérité telle qu'un bang supersonique résonna au-dessus du sol du bassin, faisant trembler le rampeur sur ses amortisseurs. Une seconde plus tard, une fraction de seconde plus tard, les trois fauteuils étaient hors de vue. Et le fouet d'énergie pure entra dans de frénétiques convulsions pour suivre les points de lumière qui boulaient sur l'anneau équatorial.